Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Allez, décide. Comme je l'ai dit l'autre fois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Timothée Mémon.
De retour dans l'after, 23h, les transferts les plus improbables. Voilà la question qu'on s'est posée ce soir aujourd'hui avec la rédaction, évidemment, en l'absence d'actualité chaude du football. On en profite pour faire un peu le retour sur des transferts un petit peu étonnants. Coach Lionel, Laure, est-ce que vous avez le souvenir d'un transfert particulièrement étonnant ? Alors quand je dis étonnant, je pense au côté exotique de la destination ou alors le manque de logique, on va dire, dans une carrière, c'est-à-dire un joueur qui est parti dans un championnat moindre à la force de l'âge. Est-ce que ça vous a inspiré ce thème ? Laure ?
Moi je commencerai tout simplement. Moi j'ai tout de suite pensé à Didier Drogba. Quand il a quitté Chelsea, ça faisait 7 ans qu'il était là-bas et qu'il est parti en Chine alors que Chelsea venait de gagner la Ligue des Champions. C'est un transfert qui m'a surprise. Alors c'est vrai qu'il avait rejoint, je crois, à l'époque Anelka dans le club chinois, mais ça m'avait particulièrement interpellé ce choix de carrière par rapport à justement le grand joueur que c'est. Et puis derrière, on verra que finalement il reviendra quand même à Chelsea.
Ouais, effectivement, revenir à Chelsea. Alors, ça, ce sont des transferts, ceux en destination des clubs chinois, qui s'expliquent peut-être un peu
par la puissance financière. Par le projet sportif.
Ouais. par la puissance financière. Lionel, t'as le souvenir de quelque chose qui t'a frappé?
Non, des autres non, mais je sais que j'en avais étonné beaucoup lorsque j'étais allé entraîner Tahiti, moi personnellement, et je peux te dire que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai pas fait, bien sûr, pour l'argent, tu t'en doutes bien. Et je parle de moi, mais parce que il y en a
tu
beaucoup.
Tu avais eu un palmier à la signature.
Exactement,
un cœur. Le confort de vie.
Deux palmiers à la signature.
Et c'était surtout un challenge extraordinaire parce que Blatter m'avait demandé de qualifier une petite nation du football océanien, de cette confédération, pour une Coupe du Monde, quelle qu'elle soit. Et donc, c'était un challenge extraordinaire. Et je peux te dire que c'était pas fait du tout pour l'argent, mais au niveau culturel, au niveau j'en ai pris plein les yeux, j'en ai pris plein le cœur, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des contrats comme ça, qui se sont évadés, des trucs un peu exotiques, et qui sont allés aussi pour la même chose, parce que tu vas pas non plus au Vietnam ou j'étais allé aussi en Indonésie, tout ça. Quand t'as l'amour, le football peut te donner ça et peut te donner cette possibilité d'aller visiter, d'aller apprendre d'autres cultures. Je peux te dire, ça t'enrichit, mais pas le porte-monnaie, mais par contre, humainement, c'est vraiment, ça vaut tout l'or du monde.
Et depuis, Lionel Charbonnier supporte Théora à Koh-Lanta. Laure,
mais je comprends ce qu'il dit, hein. Tu sais, avec les R quand il parle comme ça.
Laure, un souvenir, un transfert qui t'a marqué, qui t'a étonné?
J'ai dit Didier Drogba.
Drogba et coach.
Écoute, j'ai réfléchi, j'en ai trouvé deux. Ça passe très vite, et notamment, j'avais été surpris de la destination de Gignac à l'époque, parce que c'est un garçon que je trouvais qui pouvait encore rendre des services à beaucoup de clubs français, notamment, mais qui puisse après lui aussi penser à sa fin de carrière. Mais quand j'ai entendu les chiffres sur le plan financier, et surtout quand j'ai vu les images du club où il avait signé et ce qu'il avait fait sportivement et footballistiquement dans ce club-là, j'ai été surpris, mais je lui donne un grand coup de chapeau, parce que c'est tout simplement exceptionnel. Et je crois que quand on parlait justement de mise en forme des... Mais je pense qu'il a jamais été affûté comme ces dernières années. Je crois qu'il a jamais fait autant gaffe à son poids de forme, entre autres. Ça, c'est pour Gignac.
Et ensuite, coach, pour Gignac, sur le plan financier, c'était intéressant.
Ouais, alors
les chiffres qu'on a pu voir dans les journaux, 8 à 10 millions d'euros Je crois par an.
C'était très intéressant, effectivement. On s'est penché sur le cas Gignac en préparant cette émission. C'était très intéressant, mais André-Pierre Gignac aurait pu trouver quelque chose approchant à ce moment-là. Ton deuxième exemple, coach.
J'avais trouvé bizarre Alessandrini. Je ne le mets pas dans la catégorie d'un énorme joueur, mais je le mets dans la catégorie d'un bon joueur capable de rendre des services à pas mal de clubs. Et le voir aller aux États-Unis, là, c'est il y a quelque chose qui m'a échappé. Et bon, après qu'il soit heureux, mais tant mieux, autant sur le plan financier que sur le plan sportif. Mais j'avais trouvé ça dommage parce que lui aussi, je pense qu'il aurait pu donner des grands services et donner des coups de main à pas mal de clubs.
Et c'était
mais là,
effectivement
c'est plus le plan financier. Là.
Non, alors il y avait le plan financier, mais il l'avait expliqué Alessandrini. C'est un passionné des États-Unis. En plus, la proposition émanait quand même des Los Angeles Galaxy, a plus désagréable que Los Angeles comme ville aux États-Unis. Et il avait une volonté avec sa famille. C'était aussi un choix, comme tu le disais tout à l'heure, Lionel, avec Tahiti, un choix familial d'aller chercher une nouvelle culture, apprendre une nouvelle culture.
C'est Claudio, non, qui s'occupe de Los Angeles Galaxy, non? Il me semble, Claudio Reyna.
Au recrutement?
Il me semble.
Ouais, possible.
Il me semble.
On va accueillir Florent Sinama Pongol, qui aussi dans sa carrière, à la fin, a fait un choix étonnant, exotique. Salut Florent.
Salut tout le monde.
Salut Flo,
qui est consultant pour Canal+, et qui nous fait le plaisir de venir nous parler de ce choix que tu as fait à la fin de ta carrière, puisque tu as passé 2 ans en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette décision, de ce choix? On imagine que quand la proposition arrive, on en parle avec sa femme, c'est une décision de famille.
Ouais, c'est une décision de famille. 2 ans et demi en Thaïlande, j'ai cette offre-là un peu, j'ai envie de dire. En fait, je l'attendais, oui et non, parce que j'avais déjà eu un contact. Je pense que c'était 6 mois auparavant, 6 mois ou 1 an auparavant, avant que j'aille à Dundee United en Écosse. Et en fait, cet agent revient vers moi en sachant que bon, c'était un agent intermédiaire parce que moi j'ai toujours fait, c'est assez rare, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de faire 17 ans de carrière pro avec le même agent. J'ai jamais changé d'agent parce qu'on avait des liens vraiment qui étaient basés beaucoup plus humainement effectivement que et qui allaient on va dire dans la suite par rapport sportivement ce qu'on recherchait. Donc c'était assez cool là-dessus. Et cette offre elle m'arrive c'est drôle de dire parce que c'est un mec qui me contacte sur les réseaux sociaux sur Instagram exactement et il me demande un peu ce qu'il en est. Donc et le type
tu penses à une blague.
Ouais, tu penses sûrement à une blague, mais tu vois, le truc, c'est que tu te dis, le mec, il vient vers toi, il te dit un truc, il redéconnecte de tout ça, une semaine après, il disparaît, parce que, tu sais, le genre de truc, parce qu'en fait, en Thaïlande, il y a un quota d'étrangers, qui ont aussi, que j'avais connu auparavant, et en fait, le quota là-bas, c'est donc soi-disant 5 étrangers, mais en fait, sur 5 étrangers, c'est assez bancal parce qu'en fait c'est un asiatique, donc tout ce qui est Japon, ouais. Chine, Japon, Japon, Chine et Corée. Après t'as un ASEAN qui est donc Vietnam, Cambodge, Thaïlande Cambodge, Laos et 3 vraiment étrangers. Donc les trois étrangers qui c'est vraiment internationalement parlant. Donc bon moi. Donc tout c'était déjà pris parce que moi c'était la trêve d'intersaison. Donc c'était pas fin de saison. Donc c'était commencer les matchs retour. Donc le poste était pris. Donc il m'a dit ouais les 3 étrangers sont là. Donc eux ils veulent vraiment te faire, ils veulent vraiment te prendre. Mais c'est une destination en fait que j'ai eu la chance de le faire en 2003 quand j'étais en tournée avec Liverpool. Et là franchement moi j'avais 18 ans. J'arrive avec Liverpool là-bas, c'était la folie quoi. C'était les gens ils dormaient en bas de l'hôtel pour nous voir 10 secondes aller s'entraîner, aller trucs. Donc il y avait vraiment un enthousiasme autour du football, un engouement autour du foot, surtout autour de Liverpool qui m'avait traumatisé. Moi je n'étais pas habitué à ça, je venais dehors. donc voilà. Et en fait, je me suis toujours dit que un jour et en fait j'ai eu la chance depuis très jeune, au début de ma carrière. Partager ma passion, oui, parce que c'était extraordinaire, mais trouver de suite un truc qui permettait de vivre vraiment quelque chose de affectif avec le public que j'avais de suite aimé. J'ai su que c'est ça qui me plaisait aussi dans mon métier. Et j'ai eu la chance, voilà, d'avoir cette offre-là en fin de carrière. Après, j'écoutais, c'est vrai qu'il y a plein de choix à faire. Et ce choix-là, il a été que j'ai eu la chance dans ma carrière de gagner des grands titres très jeunes. Donc, c'est-à-dire, voilà, gagner la Champions League à 21 ans avec Liverpool, la Cup de suite derrière.
Et les résultats là-bas, Flo?
Et les résultats, écoute, les résultats, j'ai terminé. Alors, les résultats, on va dire, ça a été extraordinaire parce que, en fait, j'ai connu un truc assez un peu rarissime sur ma première année parce qu'en fait, j'ai connu la mort du roi. Et ils ont arrêté le championnat. En plein milieu, il restait encore. Et en fait, ben nous, on était premiers, on était dans la zone rouge quand je suis arrivé là-bas, donc on était, ils étaient bons derniers, d'ailleurs. Donc, à 5-6 matchs avec eux, on arrive à monter, à gagner quelques matchs, et en fait, on est à 3 points de sortir de la zone rouge. Le roi décède, et là, ben, il décide d'arrêter le championnat, 4 matchs, avant 4 matchs à la fin du championnat, et en fait, le club descend. Et là, j'ai un dilemme avec moi-même, c'est... Ben moi, je venais d'arriver et ça se passait super bien parce que je marque, donc je savais que j'allais avoir des autres offres. Et là, je me dis, ben, soit je laisse le club en galère ou soit je reste. Et en fait, je suis resté. Et j'ai fait une année de D2 en Thaïlande. C'était waouh, franchement, c'était là, par contre, c'était physique.
Et vous êtes remonté ?
On est terminé champion. Ouais.
Ah, ben quand même.
Et tu vois, coach, c'était marrant. Ben, j'ai fini, c'est drôle, hein, mais j'ai fini, et qui l'aurait dit ? Et j'ai terminé champion. Hein. Alors, avec le truc un peu, j'allais dire, ouais, connaître, rester en deuxième division, connaître le. Moi, je me suis battu, entre guillemets, pour le club. Parce que moi, j'avais jamais connu ça. Je dis, c'est pas possible. Comment vous pouvez arrêter un championnat avant la fin du championnat? Et en plus, le club descend. Donc, moi, j'étais un peu battu contre ça et tout ça.
Attention, tu risques de le connaître à nouveau. Hein.
Ouais, je sais. Et en fait, ben. En fait, sincèrement, ça a été vachement touchant. Et j'ai fini.
Et quand tu remontes, tu restes pas, tu pars.
Non, je reste encore en fait, parce que je corrige quand j'étais champion en deuxième division.
Fait 2 ans et demi en fait, six mois pour la descente, une année pour la remontée et une dernière année.
Et l'année d'après en première division, vous faites un bon championnat.
On fait un bon championnat où on finit quand même, on commence super bien. Et en fait, on se sauve à la dernière journée. Donc, encore une fois, j'ai passé 2 ans sur le plan sportif, émotionnellement parlant, intense. D'accord. Parce que une fois, il fallait remonter. Et la deuxième, il fallait qu'on reste. On s'est sauvé à la dernière journée.
Non.
Et Flo, comment tu juges le niveau là-bas ?
Eh bien, écoute, techniquement, il n'y a rien à envier à d'autres footballs. Tactiquement, ils sont très en retard. Très en retard. Après, je sais pas si tu connais un peu le football thaï et en fait la mentalité en Thaïlande. La Thaïlande, en fait, ils sont vraiment passionnés par la première ligue. Et donc, mon choix d'ailleurs, c'est que si tu as eu la chance dans ta carrière de jouer soit pour Manchester United ou soit pour Liverpool, tu es vraiment un lieu et un roi, quoi. Et en fait, on le connaît partout, tout le monde ne vit que pour ces deux clubs-là là-bas. Et ce qui se passe, c'est qu'ils s'identifient aussi au championnat anglais. Donc, c'est-à-dire du box-to-box. Et le problème, c'est que quand tu joues du box-to-box, il faut avoir le coffre, hein, il faut avoir le rythme d'entraînement, il faut avoir tout comme ça. Et l'état, bien sûr, l'hygiène, ils mangent quand même très épicé, beaucoup de riz, avec beaucoup de sauce et toutes ces choses-là. Donc, il faut avoir une certaine discipline pour pouvoir pratiquer ce football. Et le problème, bien sûr, en voyant ce football, ils veulent le pratiquer. Mais donc, on va dire... à peu près entre 70 minutes de très haut niveau, très intense, et sur les dernières les 20 minutes, c'est un peu, entre guillemets,
sans avoir la discrétion de te demander ton salaire, tu étais le joueur le mieux payé.
Mon équipe, ouais. Mais loin de là, le joueur le mieux payé du championnat.
Il y a un système de salary cap là-bas aussi, comme en Indonésie ?
Non. Non, il n'y a pas les salaries cap. Ils ont un ce truc en Indonésie. Le truc, c'est qu'ils sont, ils sont très brésiliens. Voilà. Et en fait, moi, mon président, à un moment donné, j'ai passé un dilemme. J'ai dit, écoute, pourquoi ? Enfin, parce que j'ai un peu analysé quand je suis arrivé. J'ai dit, pourquoi vous voulez payer autant d'argent sur un mec qui a 26 ans, qui arrive du Brésil, et au final, oui, vous allez en retirer quelque chose sur 6 mois ou sur 1 an maxi, mais vous voyez qu'à chaque fois, si vous, sur 3 ans de contrat ou 4 ans de contrat, à un moment donné, bah, sur la fin, le mec, il a plus le même rendement. Mais à un moment donné, il n'y a pas de surprise. Je dis, le mec, il a 26 ans, vous lui proposez, il y a des mecs, moi, voilà, j'ai vu, il y a des mecs qui touchent entre 80, 90 dollars, 1000 dollars par mois, qui a 26 ans, qui vient du Brésil, qui touchait pas grand chose. Je lui ai dit, mais le mec, il a 26 ans, il est tellement bon, mais il vient pas en Thaïlande, il serait déjà en Europe. C'est ça que vous aurez essayé de leur faire comprendre. Que vous faisiez, que vous mettez cet argent-là sur.
Prenez des jeunes, quoi.
Voilà, sur. Soit des jeunes, soit un mec en fin de carrière qui a fait un. Voilà, par exemple, Robbie Fowler qui a été là-bas après. Voilà, encore, je peux le comprendre. C'est pour remercier un peu, j'ai envie de dire, la fin de la carrière qu'il a fourni, le spectacle, le show, ou peu importe, parce que vous êtes vraiment passionné du club, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tout le monde faisait ça. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu le même concept. Les Brésiliens ont des salaires énormissimes. Mais franchement, vous ne vous rendez même pas compte. Bourriam, qui est le club, des mecs, et tout, c'est vraiment des gros, gros salaires. Non, moi, je n'ai pas peur de ça. Après, je sais qu'en France, c'est un truc. Non, moi, j'avais un rendement. Sur ma dernière année de contrat, je touchais 13 000 dollars par mois.
Et ben voilà, c'est voilà qui est transparent. Florent, une dernière question. Qu'est-ce qu'elle en a retiré culturellement comme expérience, ta famille? T'es pas parti seul, t'es parti avec famille en France, si je me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez retiré de cette fin de carrière, de ce choix, on va dire non sportif de fin de carrière?
Écoute, c'était non sportif et non économique non plus. Hein.
Oui, non, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est un choix culturel, c'est ça que je voulais dire.
C'était sur un plan culturel, pour ceux qui me connaissent un peu, moi je suis quelqu'un qui est passionné par les gens, la relation humaine pour moi c'est quelque chose de très important, et en fait c'était retrouver certainement mes origines, mes racines, se reconnaître un peu. Voilà, je parlais de bouffe tout à l'heure, la bouffe du riz. Moi je suis réunionnais, j'ai quitté la Réunion à l'âge de 11 ans pour arriver au centre de formation, donc on va dire, j'ai jamais été plus en forme, j'ai jamais été aussi bien, surtout d'ailleurs je pense même à mon poids idéal. J'ai retrouvé des vraies sensations. En plus, moi, c'est différent parce que ma femme, elle est russe, donc c'est différent. Vraiment, c'est, ça a rien à voir avec le côté un peu exotique. Mais pour mon petit de 5 ans, aujourd'hui, il a 5 ans, il parle 3 langues couramment. Un jour, il arrive dans la voiture, il comptait en taille. Moi, je pensais qu'il comptait, il faisait n'importe quoi, mais non, il comptait vraiment. Voilà, c'est des petites choses qui, culturellement parlant, quand on vit ce qu'on vit, même à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça nous permet de relativiser les choses. Et pour ceux qui ont été en Thaïlande, on peut voir que les Thaïs, ça parle avec le cœur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont presque rien. Et ils sont les premiers à vouloir vous inviter. Pourtant, ils ont vraiment rien déjà, quoi. Et c'est ça que j'ai appris sur le fond, et ça, j'ai tiré énormément de leçons. Après, bon,
c'est magnifique.
C'est magnifique.
Parce que moi, j'ai fait le globe-trotteur, entre guillemets. Ouais. 17 ans de carrière, 9 pays.
ouais. Effectivement, joli score. C'est magnifique. J'espère que beaucoup de footballeurs nous écoutent et peut-être réfléchiront à leur fin de carrière, parce qu'effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de footballeurs qui peuvent se mettre à l'abri avant leurs 2-3 dernières années
finir,
et qui peuvent faire un choix culturel.
En fait, ouais. Juste pour finir, en fait, le truc, c'est que, bon, et coach Cormis est bien placé, le football, ça peut rester une passion. Mais je pense pas qu'il va me contredire, mais je pense pour les gens qui ont connu tout ça à un très haut niveau et qui a été pendant une très longue année, beaucoup d'années à ce niveau-là, ça reste à un moment donné aussi un sujet et un truc très sensible. C'est-à-dire, il y a des joueurs, moi par exemple, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à bout de 17 ans, on voit tellement de choses que moi j'avais peur de finir et d'avoir, après 17 ans, de finir, entre guillemets, dégoûté de ce que j'ai toujours aimé. Et donc pour ça, j'avais choisi tout simplement de me mettre dans des bonnes conditions pour finir ma fin de carrière avec tout le côté passion, kiffer, pour pouvoir le transmettre derrière aux passionnés qui ont été passionnés autant que moi avant. Voilà, tout simplement.
Eh ben, félicitations pour ce choix humain et culturel
et que ça continue en tant que consultant, parce que je te regarde et ça me plaît beaucoup ce que tu fais.
Merci, c'est cool. Ouais, on essaie. Quand ça parle football, ça me va.
Voilà. Merci beaucoup, Florent, d'avoir été avec nous. L'émission merci finit à minuit. Tu me laisses le temps de rentrer chez moi. On se retrouve sur PlayStation Network.
Salut, Flo.
À tout à l'heure. Vous nous avez appelé également au 32-16 pour nous parler de vos transferts improbables, exotiques, surprenants. On est avec Florentina Pongol qui a fait le choix de terminer sa carrière en Thaïlande. On est avec Aboudé. Salut Aboudé, comment ça va?
Salut Timothée, salut à tous, salut madame, ça va bien, je te remercie.
Bonsoir.
Pardon, je vous prends juste 3 secondes pour vous souhaiter un bon anniversaire à l'After, c'est 14 ans d'émission aujourd'hui. Et puis, donc voilà, bon, moi ça fait 8 ans que j'écoutais déjà quand j'étais à l'étranger avant de venir en France, donc c'est un grand plaisir aussi de maintenant passer à l'antenne. Et puis quoi, franchement je suis content de passer avec toi, là, ça fait 3 ans que je t'ai pas eu en émission, donc c'est un vrai plaisir aussi. Tu me régales avec Eric Dimeco, avec tout le monde, franchement,
bravo. Plaisir réciproque.
Voilà, bravo pour tout ce que vous faites.
Effectivement, on en profite pour souhaiter un excellent anniversaire à Gilbert et à tous ceux qui ont fait l'After pendant ces 14 années, qui en ont fait une émission de référence qu'on essaye modestement de faire perdurer en cette période si particulière. Aboudé, c'est quoi pour toi ton transfert le plus improbable là, dont tu as le souvenir?
Alors moi j'en ai 3. Bon, c'est pas les mêmes critères que vous, c'est plutôt du style, j'ai signé dans un club pour d'autres raisons que sportives, mais pas spécialement financières. Il y a 2 qui vont concerner le même joueur, c'est Raphaël Van der Vaart. Il est au Real Madrid et en 2009, il y a les Galactiques 2, donc avec tous les nouveaux joueurs qui arrivent. Il est entre guillemets contraint à partir parce qu'il sait qu'il va pas trop jouer, mais comme sa femme est malade, elle a un cancer, je crois, à l'époque, exact, il préfère rester pour les soins. Mais le pire dans l'histoire, je vais terminer, c'est assez triste. Je crois que à la fin, elle va se séparer de lui, un peu le tromper aussi, et donc se séparer de lui.
Ça ne nous regarde pas.
Voilà, c'est un peu mal payé. Et il a aussi signé au Betis Séville en fin de carrière. Et c'était pour une volonté de sa grand-mère qui voulait absolument qu'il joue au Betis. Et donc c'était pas que finalement pour un motif.
Il n'a pas été trompé par sa grand-mère non plus.
Non, pas là.
Tu m'as fait peur. Comme tu nous présentes les choses, j'ai.
Étonnant. Donc il allait jouer au Bétis parce que sa grand-mère voulait qu'il joue un jour au Bétis.
Ah bon.
Voilà. Et le dernier, je pense que vous devez peut-être vous en rappeler. Ça commence à dater un peu. C'est Rivaldo qui joue en Grèce pendant 4 ans, donc en Olympiakos et un autre club d'Athènes. Et il va d'abord pendant 2 ans, il va en Ouzbékistan. Il retourne au Brésil et je crois qu'après il va encore en Angola. Donc là-bas, là pour le coup, c'est vraiment très improbable, quoi. Quand t'as connu tous les sommets qu'il a connus, bon, les destinations. Là,
C'est vrai que Rivaldo, je me souvenais de l'Ouzbékistan, je me souvenais pas de l'Angola.
Si. Je crois que c'est en 2012 qu'il fait l'Angola, du coup. Mais je crois qu'il fait que 1 an ou 2 ou 1 an et demi, je sais plus. Mais ouais, si, il était vrai. Et puis, j'en ai encore un autre sous le coude. C'est un ancien joueur de Montpellier, un Belge, Anthony Vandenborg, je crois. Je crois qu'il est à Montpellier et à un moment donné, il quitte le club pour aller jouer au Congo, donc au tout-puissant Mazembe. Et voilà, c'était un joueur qui était plutôt un peu stable, entre guillemets, mentalement parlant, bon, qui n'était pas, voilà. Bon joueur techniquement, mais voilà, au niveau du mental, c'était pas tout le temps la joie, quoi.
Merci Aboudé pour ces informations. Effectivement, Rivaldo a fini sa carrière au Carbouz Corp, voilà, en Angola. Ouais. Tu as bien fait de nous rappeler ça. Andrea,
merci
également. Ciao Aboudé.
Salut.
Andrea nous a appelé pour nous partager ses souvenirs de transfert les plus improbables. Salut Andrea. Comment ça va? Tu m'appelles de Sainte-Maxime?
Salut, ça, exactement.
Salut André.
Sainte-Maxime, ouais.
Y a pire pour se confiner.
Ouais, hein? Je suis pas à plaindre. Je suis vraiment pas à plaindre.
Je te confirme. Mon cher Andrea, quel est ton souvenir de transfert comme ça, le plus exotique ou le plus improbable?
Eh bien, écoutez, déjà, mon prédécesseur a fait en sorte de faire passer Rivaldo. Je m'étais penché dessus, donc on reviendra pas sur celui-là. Mais en beaucoup plus récent, c'est l'histoire. On peut appeler ça une histoire, mais Balotelli qui va signer là récemment à Brescia, même s'il était libre de tout contrat, qui fait passer ça un petit peu pour le retour dans son pays et ville natale, que lorsqu'il a annoncé la nouvelle à sa mère, elle était en pleurs, que son père rêvait qu'il évolue un jour dans ce club-là. Un autre pari pour le joueur, je pense, qui est plus un casse-tête pour Mino Raiola qu'autre chose, parce que je pense que il essaye en vain de le relancer à chaque fois dans un nouveau club, mais c'est pas pour autant que ça marche, et c'est encore une fois très mal engagé. Donc bon, je suis pas vieux, hein, donc moi j'ai pas des références qui remontent à il y a très longtemps. Mais pour moi, ça en est une actuelle qui est assez rocambolesque quand même.
Ouais, effectivement.
Je sais pas s'il avait beaucoup de choix.
Ouais, dans le cas de Balotelli.
J'allais dire, personne voulait de lui.
Ouais. Après, messieurs, Balotelli, c'est vrai qu'on a l'image d'un garçon qui est passé par des très grands clubs, Manchester City. Déjà, son transfert à Nice était une surprise, hein, coach.
Oui. Bah oui. Là, je vais te dire un truc. Bon, dans le bouche à oreille, on sait très bien ce qui se passe quand il y a un joueur emmerdant ou emmerdeur. Donc bon, bref, là, je regarde parce qu'on a le temps des reportages, mais je félicite Patrick Vieira de pouvoir supporter ce qu'il a supporté avec ce garçon. Mais même pas une minute, je le supporte. C'est bravo Patrick Vieira, c'est impossible et impensable de gérer ce cas-là.
Et bravo Mancini, et bravo tous ceux qui sont passés avant lui. Merci beaucoup, Andréa, d'être venu, et à ses coéquipiers, effectivement souvent victimes de ces farces diverses et variées. Merci Andréa d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, bonne soirée.
On termine rapidement avec Karim, qui est supporter du Barça, qui nous appelle de Lille. Salut Karim.
Salut à tout le monde, salut à l'heure, salut à coach, et bon anniversaire à l'after.
Merci beaucoup. Comment ça va, mon Karim? Ça se passe bien, ce confinement?
Ouais, ça se passe. Bon, à part on en manque de foot, là, franchement, c'est long, mais bon. On va se dire qu'il y a pire dans la vie.
M'en parle pas, mon pauvre. Je rêve d'un déplacement à Gaston Gérard. Je tuerais pour partir faire un match à la Ligue 1. J'en peux plus.
Même moi qui regarde pas la Ligue 2, un match de Ligue 2, ça me manque aussi, tu vois.
Ouais, effectivement. Ils seront peut-être déconfinés avant la Ligue 1. On va se passionner pour la Ligue 2. On verra ça. Karim, t'as le souvenir d'un transfert un petit peu particulier, toi aussi?
Moi, j'en ai un. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est Jocelyn Blanchard qui signe à la Juve.
Alors ça, je l'ai vu sur ta fiche, en fait, avant que tu n'interviennes. J'en avais aucun souvenir. Coach, ça te parle?
Oui. C'est sûr que ça avait été surprenant de la même façon, ouais, que comme il s'appelle, qui a signé au Real pour 6 mois.
Fauvert.
C'était surprenant aussi.
Ouais.
Parce que ouais, à l'époque, je m'en souviens, il y a Thierry Henry, il y a l'équipe Inzaghi, Zidane, Del Piero, Amoruzzo, c'était la grande Juve, c'était la Juve de Lippi, je m'en souviens, c'était la grande Juve de Lippi, et ce transfert, il m'avait vraiment surpris, voilà, j'étais choqué, honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce qui est parti faire à la Juve, et franchement, je n'avais pas compris, honnêtement.
Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi ces exemples comme ça de joueurs qui arrivent dans des clubs qui semblent être au-dessus de leur niveau. Balotelli, en arrivant à Nice, semble arriver dans un club en dessous de son standing jusqu'alors. Et c'est vrai qu'il y a des clubs,
il est peut-être arrivé en même temps qu'un grand joueur, hein, qui faisait partie du même agent.
Ouais. Effectivement. Et puis
choses qui arrivent.
On va conclure sur Julien Faubert. Merci beaucoup Karim de nous avoir appelé.
Merci à vous.
À très vite. Et t'inquiète pas, ça va vite revenir. Sinon, tu peux te refaire des matchs en replay. T'hésites pas. Hein. Ça soulage pas complètement, mais je peux t'assurer que ça fait du bien.
Ouais, et en 82, on peut te dire que l'équipe de France, ils perdent au pénalty.
Ah, gâche pas tout. En tout cas, je voulais terminer avec Julien Faubert, parce que alors lui, c'est clairement l'exemple total des transferts improbables. D'abord, il y a sa signature au Real, et après, il est parti en Finlande pour finir sa carrière à Bornéo. Voilà, quand même des choix étonnants. En tout cas, c'était chouette de parler de tout ça avec vous. On revient dans un instant. On va vous parler de fair play, et puis vous nous appelez au 32-16 pour participer, évidemment, à la fin de cette émission, au quiz de l'After. À tout de suite.
RMC. L'After Foot. Timothée Mémon.
23h30 de retour dans l'After. On continue à dérouler le programme de cette émission avec les gestes les plus fair play qui ont marqué l'histoire du foot, et on accueille notre drôle de dame, Julien Laurence. Salut Julien.
Salut Simoté, salut à tous.
Salut Julien.
Alors, on va aller vous voir les uns après les autres. On va commencer avec toi, Julien, puisque t'es avec nous. C'est vrai que l'Angleterre, la perfide Albion, est quand même un endroit où on a vu pas mal de beaux gestes de fair play. Et quand on regarde un petit peu les classements sur Internet, on retombe souvent sur la Première Ligue.
Mais ouais, l'Angleterre, c'est vrai, tu as raison, fair play.
Ah oui, tu veux dire juste pour le terme.
J'allais venir.
Ah oui, déjà, c'est vrai que les Anglais, en tout cas, aiment beaucoup se targuer du fait qu'ils soient très fair-play, outre le fait qu'ils aient inventé le jeu, bien sûr, mais ça leur ferait trop d'honneur d'en parler encore ce soir. Mais effectivement, ils aiment dire qu'ils sont fair-play. On a eu beaucoup d'exemples ces dernières années, notamment de gestes fair-play, de cas de fair-play comme ça dans des matchs, en allant même très très loin jusqu'à la saison dernière, par exemple. Rappelez-vous, on en avait beaucoup parlé dans l'émission quand Marcelo Bielsa et son équipe de Leeds, lors du choc de la Championship, la deuxième division anglaise contre Aston Villa, avait laissé Aston Villa égaliser après que le premier but inscrit par Leeds avait été inscrit alors qu'un des joueurs d'Aston Villa, Jonathan Kodjia, l'ancien joueur du championnat de France, était au sol et que les joueurs d'Aston Villa s'attendaient à ce que Leeds, comme c'est d'habitude le cas, mettre le ballon en touche pour que les médecins puissent venir voir ce que Kodjia avait, et que finalement Leeds avait marqué ce premier but dans un match vraiment très important pour la montée en première ligue, et que face à la furie et la colère des joueurs d'Aston Villa, et ben Bielsa avait dit à ses joueurs, même Pontus Jonsson, qui le défenseur suédois, qui jusqu'au bout avait essayé de s'interposer et faire un tac pour pas laisser marquer, mais ils avaient laissé Adoma, je crois, traverser tout le terrain depuis l'engagement après le but de Leeds pour aller marquer. On aurait pu vous parler de celui-là un peu plus longuement, mais on a choisi plutôt Arsène Wenger, parce qu'il est français déjà, et ça remonte à quelques années, certes, en 1999, mais quand Arsène et son équipe d'Arsenal avaient affronté Sheffield United en huitième de finale de la Coupe d'Angleterre, la FA Cup à l'époque, à Highbury encore, avant que les Mirage ne soient construits, les Gunners s'étaient imposés 2-1, mais le deuxième but avait été marqué par Mark Overmars après un incident un petit peu similaire que celui entre Leeds et Aston Villa dont on vient de décrire, puisque il y avait un joueur blessé et que Luan Kokanou, alors que les joueurs de Sheffield s'attendaient à ce qu'Arsenal leur rende le ballon après avoir senti le ballon
Sheffield
même
a un joueur blessé. Sheffield a un joueur blessé, ils mettent le ballon en touche et Luan Kokanou ne se rend pas compte qu'il y a un joueur blessé, il joue la touche à toute vitesse.
Alors Luan Kokanou a toujours juré, et sincèrement je pense, en tout cas moi je le crois, c'est quelqu'un qui n'aurait pas menti dans ce genre de situation, a toujours juré que ne s'était pas rendu compte en fait qu'ils avaient mis le ballon exprès en touche pour soigner un de leurs joueurs.
Effectivement.
Et donc il a joué en toute bonne foi. Voilà, c'est vrai, c'est un joueur très fair-play, et en toute bonne foi, il a attaqué comme s'il avait attaqué en temps normal. Il a effectivement centré pour Overmars, qui a marqué. Les joueurs de Sheffield United, qui étaient à l'époque entraînés par Steve Bruce, l'actuel entraîneur de Newcastle, donc qui a eu une longévité assez incroyable en tant qu'entraîneur, mais et donc Steve Bruce était comme un fou, et Arsène Wenger, à la fin du match, a dit, bah vous savez quoi, la meilleure des façons, la façon la plus fair-play, c'est effectivement, on n'aurait pas dû marquer ce but parce que c'était pas fair-play, on aurait dû leur rendre le ballon. Donc on vous propose de rejouer ce huitième de finale. On le rejoue ici à Highbury, pareil, mais on annule la victoire de ce soir et on vous propose de rejouer le match. Ce que la fédération anglaise a accepté, ce que Sheffield United bien sûr a accepté, Steve Bruce aussi et tous ses joueurs. Et le match est donc rejoué 10 jours plus tard à Highbury aussi. Et Arsenal s'est encore imposé 2-1, cette fois sans but litigieux et dans les grades de l'art exactement. Et c'est donc qualifié pour les quarts de finale.
Eh ben voilà, une belle histoire effectivement, Julien. Si on a le temps, on en parlera d'une autre dans quelques instants. Laure, t'as un souvenir comme ça, quelque chose qui t'a marqué un jour où tu t'es dit, franchement la classe.
Bah c'était aussi en Angleterre. C'était un match de cup entre Leicester et Nottingham.
Ah,
il y avait un zéro à la mi-temps et il y avait un joueur qui avait fait un malaise, je crois, dans les vestiaires. Ils avaient annulé le match. Et dans un souci de fair play, bah, c'était l'équipe de Leicester avait laissé l'équipe adverse remarquer un but lors du match qui était rejoué. Bon, après, Leicester avait gagné, mais en tout cas, ils avaient laissé l'avance pour le match d'après.
Ouais, effectivement, il y avait eu rematch puisqu'il y avait eu cet arrêt cardiaque de Clive Clark et lors du rematch, ils ont commencé la rencontre en permettant à Nottingham Forest de récupérer le but d'avance qu'ils avaient. Là aussi, la grande classe, et là aussi, ça vient d'Angleterre. Lionel, un petit souvenir particulier comme ça?
Bah, écoute, on parle beaucoup des joueurs et des entraîneurs. Moi, je vais te parler du public. Je vais pas chercher très loin, tu vois. Moi, je me souviens que Ronaldo a retourné l'Allianz Stadium de la Juve avec son retourné, son but fantastique tout le public, ouais. Tous les Italiens l'ont applaudi, ils crucifiaient complètement la Juve, mais ça allait au-delà de tout ça. Tout le monde s'est mis debout à l'applaudir. Ils ont applaudi le but adverse. Alors quand
je suis content
quand même...
que t'en parles.
Mais t'as
Lionel.
Un exemple comme ça, t'as Ronaldinho aussi qui avait fait soulever tout Bernabéu.
Absolument. Standing ovation pour Ronaldinho à Bernabeu après une démonstration dans un classico. Ouais.
Voilà. Et là, les Italiens m'ont fait vraiment plaisir. C'était magnifique.
Bravo, j'avais l'incroyable chance de commenter cette rencontre pour RMC, Lionel. Et ce qui s'est passé au moment du commentaire, évidemment, t'es sur le geste et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose dans le stade. Parce que avant les applaudissements, le public est interloqué. Donc, il y a le but. Il y a le silence. Ça dure une demi-seconde et d'un coup, un tonnerre d'applaudissements. C'était un moment absolument magique.
À l'unisson.
Absolument. Il n'y a pas une personne dans le stade qui a dit c'est terrible, le Real vient de nous en planter un. Et tout le monde a offert une standing ovation à Ronaldo. Effectivement, un beau moment. Il y a Ross qui nous a appelé au 32-16, qui est supporter du Barça. Salut Ross.
Bonsoir Laure, bonsoir messieurs, comment allez-vous?
Je suis obligé de te demander des nouvelles de Rachel. Voilà, c'est fait. On passe tout de suite, après cette très mauvaise vanne, à ton plus beau moment fair play dans l'histoire du foot.
Non, elle est sympathique, vu les temps qui courent, une vanne de plus ou moins, ça
fait du
mal.
Bien. Ça fait du bien.
Ouais. Alors, moi, mon plus haut souvenir, bizarrement, ça va concerner le Barça. C'est quand Eric Abidal soulève la Champions League en 2011, quand Carles Puyol lui remet le brassard de capitaine. Le clin d'œil parce qu'il revient de sa tumeur du foie et lui remet l'honneur de pouvoir soulever le trophée en premier.
Effectivement.
Là, pour moi, c'était un geste très très fort parce qu'il a risqué sa vie et il a réussi l'exploit de revenir sur le terrain. Et quand je vois aujourd'hui les conséquences de cet acte, je trouvais ça merveilleux.
Ouais, c'est vrai qu'il avait manqué une partie de la saison. Et c'est vrai que cette saison-là a noué des liens finalement indéfectibles entre Barcelone et Eric Abidal. Et c'est vrai que c'était un grand moment. À noter d'ailleurs que dans cette histoire, on parle de Carles Puyol et en préparant cette émission, il en a eu. Il en a eu et plus d'un des gestes de grande classe. Oui. On se souvient de Sergio Ramos, de Piqué qui en fait des caisses, qui en fait des caisses après avoir reçu un demi-briquet sur l'avant-bras. Et plutôt que de le laisser chuigner entre guillemets, il lui arrache le briquet des mains, il le met dehors et il dit allez on joue.
On joue exactement. Ouais.
Effectivement.
Ouais, il voulait le donner à l'arbitre de mémoire, hein, c'est ça?
Oui, voilà.
Il voulait lui dire, voilà, j'ai reçu ça et tout, l'autre, il lui a pris.
Il voulait envenimer les choses. Voilà.
Ouais, exactement. Mais il en a fait un paquet, Puyol.
Ouais, Puyol, effectivement, un grand monsieur. Tiens, un autre auquel on s'attend pas. Paolo Di Canio. Là, comme ça, a priori, ça résonne pas fair play quand on y pense.
Non.
Figurez-vous qu'il a reçu.
C'était pour l'ensemble de son œuvre, c'était pour cela.
Il a reçu le trophée du Fair Play Award remis par la FIFA, tout simplement parce que il s'était aperçu, chose que personne n'avait vu sur le terrain, que le gardien adverse lors d'un match s'était blessé et le ballon lui arrive et plutôt que d'aller au but il la met en 6 mètres en se rendant compte que le gardien face à lui n'est pas en totale possession de ses moyens. Ça lui avait valu quand même un Fair Play Award. C'est quand même étonnant quand on parle de Paolo Di Canio.
Et le plus beau Timothée, c'est que c'était West Ham Everton, et à Everton d'ailleurs, et c'était les arrêts de jeu et le match était à 0-0. Ça veut dire que si Di Canio avait marqué, c'était terminé, ils auraient gagné. Exactement. Et effectivement, il attrape le ballon avec les mains d'ailleurs sur le centre, ce qui est assez spectaculaire aussi qu'un joueur arrête le jeu comme ça en attrapant le ballon de la main. Et effectivement, un très beau geste de Paolo parmi
le seul.
Toutes les autres.
Le seul de sa carrière.
Exactement, le seul.
Tiens, j'en ai un ou deux autres à vous soumettre. Miroslav Klose, tu restes avec nous, Ross, t'hésites pas à intervenir. Miroslav Klose, je sais pas si vous vous souvenez, en 2012, avec la Lazio, 0-0 entre la Lazio et le Napoli. Le Miroslav, malin, met le ballon au fond des filets d'une main retournée. Le geste est d'ailleurs assez réussi quand on y pense. Ça fait 1-0 pour la Lazio. Le but est accordé. Mais Miroslav Klose va voir l'arbitre et lui dit non, monsieur l'arbitre, j'ai marqué de la main. Et ça, Thierry Henry ne l'aurait pas fait.
Moi, je ne l'aurais pas fait non plus.
Oh.
Mais Thierry Henry nous a
fait. Et en plus, ils ont perdu le match.
Coach, tu l'aurais fait ça?
Oh, ben certainement pas.
faut avoir du vice dans le football.
Attends, j'écoute tous les exemples. Bon, celui d'Abidal ou si un joueur blessé gravement, ok, mais tout le reste, excuse-moi, avec les souvenirs que j'ai d'erreurs d'arbitrage qui n'ont pas été en notre faveur et par rapport aux erreurs d'arbitrage qui pourraient être en notre faveur, mais je réfléchis même pas une seconde. Je suis trop mauvais perdant et mauvais joueur pour accepter certaines choses. Là, au tout début, c'est quoi? C'est Arsenal? Mais c'est quoi? C'est un coup de pub ou quoi? Tu as gagné. Chacun sa façon de voir les choses. Donc je te réponds. L'exemple d'Abidal, évidemment, ça c'est super. Mais le reste, une blessure, sinon le reste, attends, des erreurs d'arbitrage, ça va. J'ai trop de mauvais souvenirs pour que si des fois il y en a une conne pour moi.
Ta franchise et ta transparence t'honore, combien aurait menti?
Moi. J'ai une question pour le coach, si vous permettez.
Vas-y, Ross. Oui.
Parce que je me rappelle de sa saison fantastique en 99 à l'Olympique de Marseille. Lorsque le PSG laisse gagner Bordeaux, pour moi, c'est un geste de faire paix de la part du PSG ou pas? Pour que Bordeaux soit champion.
Mais si tu veux, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Donc dans le sens, le seul truc, si tu veux, que j'ai regretté dans cette affaire-là, mais c'est une fois de plus une démonstration que j'étais traité différemment des autres. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est que si par exemple avec mon équipe, je suis champion de la même façon que Bordeaux l'a été. Mais le lendemain, j'avais pas l'impression qu'on était content que Bordeaux était champion dans notre extraordinaire pays. Je me suis surtout aperçu qu'on était content que Marseille et moi ne l'étaient pas.
Donc, c'est clair.
Ben, que tu veux que je te dise, c'est comme ça. On a été malchanceux du calendrier. Sinon, j'en attendais pas moins.
Ah, par contre.
Et par contre, c'est extraordinaire quand, par exemple, tu vois Adilton qui va qui égalise et qui lève les bras et qui se retourne à droite, à gauche et qui voit aucun de ses coéquipiers arriver. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Coach, je te tiens, je te lâche pas. Je te propose un dernier cas d'école. C'est quelque chose qui est arrivé. C'était en Norvège. Le ballon est mis en touche par une équipe parce que il y a un joueur qui est blessé. L'équipe adverse veut rendre la balle et envoie un long ballon vers le gardien, lequel se retrouve lobé, le ballon rentre, ça fait 1-0. Quelle consigne tu donnes à tes joueurs?
Tu peux répéter, s'il te plaît?
Alors, en clair, ton équipe a un joueur qui est blessé. L'équipe adverse sort le ballon. Ok? Donc tes joueurs ont une touche à jouer. Ils jouent la touche et ils veulent rendre la balle avec le plus grand des fair play. Sauf que en la rendant, ça lobe le gardien et ça finit en pleine lucarne. 1-0 pour ton équipe. Quelle est ta consigne pour tes joueurs?
Ah ben je fais semblant de l'engueuler et puis je ferme un œil et je présente mes excuses.
Voilà. Bon, et ben sache que l'entraîneur de l'équipe norvégienne adverse a demandé à ses joueurs de laisser marquer pour que ça fasse un partout et que le match reprenne à
égalité. Mais c'est arrivé ça.
C'est arrivé absolument.
Mais au Japon, il me semble qu'il y a eu un truc comme ça. Il me semble que c'est dans le championnat japonais. Je sais pas si vous vous souvenez, Laure, tu dois t'en souvenir, toi. Où il y a la même chose. Le but est marqué, mais il n'était pas valable et tout. Donc l'équipe qui a marqué le but décide de laisser marquer son adversaire. Seulement, il y avait deux joueurs qui étaient pas au courant, qui étaient deux étrangers, le gardien et le stopper, je crois. Et eux, ils se sont mis les deux à se battre comme des chiffonniers pour pas que la balle rentre. Et t'avais toute l'équipe adverse qui venait. Mais ça a duré une minute, le truc. Ils arrivaient pas à marquer, le gardien l'arrêtait tout. Mais c'était pas de ça.
Je me souviens de ces images, effectivement.
Ah, c'est
d'ailleurs,
un truc
Lionel,
de fou.
c'est marrant d'avoir ton avis parce que dans ces nombreuses vidéos que j'ai re-regardées cet après-midi en préparant ce sujet, on s'aperçoit que souvent, quand toute l'équipe dit OK, on les laisse marquer, bah le gardien, il a sa petite fierté, la volonté du clean sheet ou je sais pas quoi. Et souvent, on voit les gardiens s'arracher et tenter quand même de faire opposition, de faire barrage. Ouais. Tu regarderas, il y a des classements qui existent, les dimanches les plus fair-play. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Les plus durs à soudoyer, c'est les gardiens et les coachs.
C'est un poste particulier.
Les gardiens et le coach.
C'est un poste particulier.
On termine avec Thomas. Thomas, tu voulais nous parler justement du fair play relatif, selon toi, de l'histoire de Wenger contée par Julien il y a quelques instants.
Oui, allô?
Oui, oui, on t'écoute, Thomas.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, je voudrais relativiser le grand fair play de M. Wenger en vous rappelant que la même année, bon, déjà, il faut se souvenir que la Cup, c'était la troisième ou quatrième dans l'ordre des priorités d'Arsenal. Donc, c'est une entreprise de com. Je vais vous expliquer pourquoi. La même année en Champions League contre Lens, il y a Tony Adams qui fait une espèce
de... Vous savez, t'allais me parler de ça.
Exactement. Cette faute, là, j'ai pas vu Wenger demander de rejouer le match, ni même de lever la quelconque suspension de Frédéric Dehu.
Oui, effectivement. Rappelle Julien un petit peu le contexte. C'est un match de Coupe d'Europe ou
de Champions League.
De Champions League, absolument.
Ligue des Champions, ouais. Tout à fait. Donc c'est sur Lee Dixon, je crois, non c'est...
C'était Lee Dixon ou Tony Adams. Bon, un des deux. Voilà. Qui met un espèce de petit coup dans le dos de Frédéric Dehu. Je suis pas lensois, hein, donc je suis même pas partie prenante. Hein. Mais il met un coup dans le dos de Frédéric Dehu. L'autre se retourne, bonnet, s'est fait avoir comme un bleu. Ok. Et donc le joueur d'Arsenal, donc je sais plus, hein, Dixon, Dehu, Dixon, Adams, peu importe, s'écroule par terre. Il se roule par terre avec la tête dans les mains. L'arbitre met un rouge à Dehu. J'ai pas vu Wenger vraiment s'en émouvoir.
Ah, écoute, bon. C'est vrai que voilà, il y a des décisions, voilà, il y a pas le même enjeu et puis
il faut relativiser le fair play. Moi, je dis que c'est de la com.
On relativise, on va pas forcément a posteriori comme ça, c'est-à-dire cette belle histoire qu'on a eue tout à l'heure, effectivement,
avec moi au moins, il y a aucun problème.
Avec moi au moins, c'est clair, le fair play peut repasser en deuxième semaine. Effectivement, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous, on te souhaite un bon confinement. Nous on revient dans quelques instants dans l'after avec le quiz. Évidemment, vous nous appelez pour jouer avec nous. À tout de suite dans le quiz de l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Timothée Mémon.
De retour dans l'after pour la dernière ligne droite de cette émission, le quiz. Vous le savez, 10 minutes pour comparer nos connaissances sur le football. On a déjà établi les équipes. Fair play, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, hier, j'en ai fait une belle, sans m'en rendre compte. On me l'a fait remarquer sur Twitter. Ah bon ? J'ai dit, attention sur cette question. D'ailleurs, c'est toi qui l'as dit, en fait, je le prends pour moi, mais c'est toi, Arthur, qui nous vient de nous rejoindre. Salut, Arthur. Le producteur de cette émission qui va nous poser les questions. J'ai dit, sur cette question, les auditeurs ne jouent pas parce qu'ils peuvent avoir accès à Internet. Sauf que vu qu'il y a le confinement, il faut quand même vous rappeler que tous nos consultants sont chez eux et que donc, ils ont également accès.
T'as raison.
Mais de toute façon, Timothée, si ça ne vient pas instinctivement, ça veut dire qu'on a quelqu'un à regarder.
C'est pas faux.
Non, Timothée, t'avais pas faux parce que moi, je suis à la maison, mais je n'ai pas Internet. Ouais. Mais je peux te dire.
Moi, je suis pas
confiné.
Et je vais te dire, ça s'est vu.
Non mais Pipi, ça va se revoir ce soir.
Alors les équipes pour cette rencontre. Tu vois Lionel, j'ai trouvé que on avait été tellement mauvais hier que je t'ai repris dans mon équipe.
Ah ouais?
Non, non mais je suis pas un fou. Je me suis dit on va progresser ensemble et dit tu vois on a fait 14 ans. On a fait 14 ans d'after jusqu'à présent. Et ben dans 14 ans on sera devant mon Lionel. On va aller battre dans 14 ans. On va trouver nos automatismes, ça viendra, on va se réathlétiser et tu vas voir, ça va cartonner. Coach, ouais, tu seras avec Benjamin qui nous a rejoint 32-16. Bonsoir Benjamin.
Salut l'équipe, salut Timothée.
Salut Benjamin, bon courage.
Cédric sera avec Laure. Cédric, t'es supporter de l'Olympique de Marseille.
Salut toute l'équipe, ouais c'est ça, ouais, je suis pour Pablo M.
Voilà, rapproche-toi un tout petit peu de ton téléphone et éventuellement éteins la radio si elle est derrière toi. On vous rappelle, chers auditeurs, pour répondre aux questions, vous nous donnez votre prénom si possible. On sait que c'est des questions de vitesse, mais on vous laissera parler si vous nous donnez votre prénom. Et le premier à l'avoir donné aura la parole. C'est parti pour le quiz de l'after.
Franck Ribéry, Bernard Lama, Robert Pires, Florent Malouda, Sylvain Wiltord.
Donc tous les deux marqués en finale de l'Euro ?
Tous les deux, puisqu'ils sont 5.
un de nos tout meilleurs jingles. Arthur Robert,
voilà,
c'est à toi.
Voilà pourquoi je réponds pas.
Alors, on va rester dans la première ligue. Et on va aussi rester dans le thème du fair play du coup. Hein. Je compte sur vous, malgré les menaces que je reçois par texto. Je ne dirai pas de qui, mais j'en
c'est
reçois
pas
évidemment.
Moi. Ouais, il n'y a pas Koh-Lanta, je peux pas.
Il n'y a pas Internet, mais il a du réseau.
Mais voilà. Non, il n'y a pas Koh-Lanta. Je peux pas menacer ce soir.
Allez. Première question. Qui est actuellement le dernier de Première Ligue?
Le dernier.
Norwich.
Norwich a été dit.
Roland Courbis, 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 Ro
On vérifiera ça ensemble.
Je suis pas d'accord.
Oh ben attends, je te joue double.
Roland, est-ce que tu fais preuve de fair play? En laissant ton point alors. T'as rien que tu peux te gratter alors, hein, je te le dis, tu l'auras pas ton point.
Mais attends, je réfléchis un peu. Non.
Non. Le point sera attribué à coach en cas de litige, lors tu auras le prochain point.
Prochaine question. Deuxième question. Cette saison, Anthony Martial est le meilleur buteur français en Première Ligue. Qui est le deuxième?
Benjamin. Jimmy Vardy.
Non. Le français.
Deuxième français.
Deuxième français.
Mopé.
C'est bon.
Oh, Neil Mopé. Il
fallait le chercher celui-là.
Bravo.
Bravo, Laurent.
Un partout. Et c'est Lionel génial, et Timothée, on reste abonné à ce zéro. Ouais.
Exactement ce que j'allais dire. La team légendaire. Lionel Charbonnier.
Ah ouais, non, mais moi, on m'a demandé
rien. Timothée Mémon, zéro. Laure et Cédric, un point. Coach et Benjamin, un point. Troisième question. Qui est le meilleur passeur de Première Ligue cette saison?
De Bruyne.
C'est bon De Bruyne. Pour Laure.
Laure, bravo, Laure.
Magnifique. Il y a trois Français présents dans l'effectif d'Everton. Lucas Digne, Sidi B et qui est le dernier?
Schneiderlin.
Laure.
Oh, et moi?
Ah, je suis désolé, c'est Laure.
Ah, tu l'as dit après.
Tu l'as dit après, là. C'est scandaleux. En plus, elle a du retard. Tu vois, non.
Ouais, c'est vrai qu'elle a du retard.
Coach, tu veux un pastis?
Alors, attendez.
Je suis en train de chercher les glaçons.
Écoutez-moi,
c'est la mode, ils font des apéros visio en fait, coach. Et...
Le VAR, notre réalisateur Daniel Torres, est allé vérifier pour la première réponse et c'est bien Roland Courbis.
Ah, voilà, la vérité est rétablie et de toute
contre,
façon, Laure s'est rebellé.
J'ai pas récidivé. Hein.
Non, mais tu sais quoi, c'est parce que j'ai un décalage quand je donne ma réponse.
Moi aussi, mais vous ne vous en rendez pas compte.
Laure Cédric, 3 points. Coach Benjamin, 1 point. Timothée et Lionel jouent pour le panache.
Allez, on va partir pour la C1. Donc C1, j'espère que voilà, vous avez un petit peu retenu. Il y a un seul joueur dans l'histoire qui a marqué pour 3 équipes espagnoles différentes. Il y a un seul joueur dans l'histoire qui a marqué avec 3 équipes espagnoles différentes en C1. Qui est ce joueur?
Morientes.
Non. Alors je vais vous donner un indice, un premier indice. Il a joué
espagnol
à Strasbourg. Et c'est pas un joueur espagnol, hein. Mais c'est un joueur qui a joué pour 3 équipes espagnoles différentes et il a marqué 3 fois. Enfin, il a marqué une fois avec chacune de ses équipes. Alors, là, je vais vous donner un deuxième indice.
Il est français. A priori, quand j'entends les auditeurs derrière, c'est même trop difficile.
Gamero, c'est bon.
Bien joué, Benjamin. 3-2.
Ça donne coach et Benjamin 2 points, Laure et Cédric 3 points et Timothée et Lionel évidemment 0. On continue sur la lancée.
Évidemment,
de la veille.
Timothée. On est bien.
Dans quelle ville devait se jouer la finale de la C1?
Istanbul.
Istanbul, ça a été dit avant. C'est coach.
Honnêtement, j'ai dit Istanbul, mais c'est coach.
Mais dis-moi, elle est fair play ce genre ou pas?
Non, pas du tout.
Fair play. Allons-y.
Alors, qui est le meilleur buteur de C1?
Benjamin, allons.
Non.
Lewandowski,
c'est bon pour l'heure.
Ah oui.
Donc, ouais. 4-3.
Bravo.
Le duo Laure Cédric reprend la tête. 4 points. Coach et Benjamin, 3 points. Et Timothée et Lionel. Toujours 0. Lyon s'était imposé 1-0 face à Juventus pour son 8e de finale aller sur un but de Lucas Touzard. Qui était le capitaine de Lyon?
Benjamin.
Marcelo.
Non.
Denayer.
Oui, c'est bon pour Timothée. C'est magnifique. Donc, ouverture du score pour le duo.
Bravo, Timothée, ouais,
Timothée,
mon poulet.
Timothée, Lionel. Et en plus, Timothée, qui est un Stéphanois, a dû citer un Lyonnais, c'est magnifique.
Comment tu l'as dit vite? C'est pour ça que tu l'as dit.
Mon premier point marqué.
Qui c'était le... Ça t'a fait mal à la bouche quand tu l'as dit ou quoi?
Non, ça va. T'as vu, je l'ai pas hurlé non plus. Hein.
Denayer. Attends, mais c'est moi qui ai dit Denayer.
Non, j'ai dit Denayer.
Non, mais attends, mais re-écoute.
Eh ben, écoute, on va mettre notre réalisateur dessus. Et il va me dire ça dans l'oreillette. On reprend. Lors du 8e de finale retour entre le PSG et Dortmund, un joueur a été expulsé. Qui était-ce?
Benjamin.
Oui, c'est bon pour Benjamin.
Bravo, Benjamin.
Égalisation 4-4. Du duo coach Benjamin. Laure Cédric, 4 points aussi. Timothée, Lionel, 1 point. Liverpool a été éliminé en 8e de finale de C1. Quel était le dernier tenant du titre éliminé à ce stade de la compétition?
Real de Madrid.
Real de Madrid.
Bien joué. Et
effectivement, Benjamin, c'était face à l'Ajax l'année dernière.
Benjamin, dis d'abord la réponse avant ton prénom parce que tu vas voir que tu vas te faire enfermer.
Non, mais je respecte les règles. C'est pour ça. On m'a donné cette consigne-là. Mais t'as raison, pardon. En fait.
On va retourner en Ligue 1, ce sera peut-être plus facile pour Lionel.
Même pas.
Ah bon? Allez, c'est parti.
Non, c'est plus le football, j'aime pas, moi.
Qui a la meilleure défense de Ligue 1 cette saison?
Paris.
Non.
Rennes.
Paris.
Non plus, pas Paris.
Dijon.
Marseille.
Non plus.
Nantes.
Non. C'est un club, je vous donne un indice, il est 5e de Ligue 1. Lille.
Rennes.
Non plus.
Qu'est-ce que je dis, moi?
Reims. C'est Reims, c'est bon pour Reims.
J'ai dit Reims en premier.
Qui a dit Reims là, au niveau des auditeurs?
Je l'ai dit tout à l'heure.
Tu l'avais dit Reims?
Ouais.
Je te fais confiance, Benjamin, les fair play.
On te fait confiance.
C'est pas comme si on courait pas après les points. Bon, avec Lionel.
Et puis moi je suis témoin.
Je fais confiance. Benjamin. Donc ça fait.
Tu remarques que je suis tellement fair play que si l'équipe adverse marque un but sur une erreur, je suis prêt à lui en donner deux.
Et ça, c'est beau ça. Dernière. Alors. On va tenter d'avoir faire deux questions pour laisser une chance à Laure et Cédric de remonter. Prochaine question.
Je crois que c'était pour nous.
Elle vaut deux points. Elle vaut deux points. Alors, qui est le meilleur passeur de l'ASM en Ligue 1 cette saison?
Slimani.
Slimani.
Ça a été dit, Slimani.
Ben Yedder.
Timothée. Timothée Mémon.
Ah merde,
alors attends, parce que
Yedder, c'est alors,
mais non, c'est Benjamin.
Je l'ai dit en premier, mais il se trouve que ça sert à rien. Donc on va dire que vu que le match c'est plutôt entre Benjamin et Cédric et que c'est Benjamin qui l'a dit, les deux points vont à Benjamin.
Et bah très bien.
Ça, c'est gros seigneur ça.
Ah merde. Donc du coup ça fait.
Mais non, 8, ça n'aurait pas mis de remonter.
Ça fait 8.
C'est comme ça. Mais du coup il y a une dernière question à 5 points.
Ça c'est du fair play.
Dernière question à 5 points du coup.
Ouais.
Vas-y.
Ouais, à 12 si tu veux.
À 12, on va la compter à 12. Paris possède la meilleure attaque de Ligue 1 cette saison avec 75 buts. Qui possède la deuxième? Quelle équipe possède la deuxième meilleure?
Lille.
Non.
Lyon.
Rennes.
Non plus. Je répète la question.
Marseille
non plus. Paris possède la meilleure attaque de Ligue 1 avec 75 buts. Quelle équipe possède la deuxième?
Lyon. Je remarque qu'ils en prennent pas.
Monaco, ça a été dit. Monaco.
Ah, Monaco, 44 buts. Oui. Monaco, ils sont à 40.
C'est Cédric?
Ah, c'est Cédric. Bien joué, Cédric.
Bravo, Cédric. Voilà, sur le gong. Mais sur le gong. Il remporte. Alors, vous inquiétez pas. Vous avez vu que les comptes étaient difficiles à faire. Benjamin et Cédric, vous repartez avec un t-shirt de l'After. Merci d'avoir été avec nous pour jouer, les gars. Continuez à bien restez chez vous. Vous le savez, l'After c'est terminé. On se retrouve demain. Ce sera à 22h également. Ce sera avec moi également. Et ce sera avec un immense plaisir. On espère vous avoir diverti un minimum, avoir apporté un peu de sourire, en particulier au personnel soignant qu'on remercie. À demain pour l'After. Merci beaucoup,
ciao
Lionel. Merci, coach. Merci, Laure.
À très vite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.